Salut à tous, bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika, et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène ?
Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe.
Bonjour à tous. Alors Hélène, je ne sais pas toi, j'ai l'impression que ce mois de septembre dure 1000 ans, mais voilà, ça fait déjà quoi, allez, 4 semaines qu'on a repris l'école.
Et oui, et j'espère que tout le monde est bien reparti à l'école, que votre classe et vos professeurs vous plaisent. Pour information, je vous rappelle que l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Et oui, il y a encore quelques années devant vous. Et d'ailleurs, nouveauté de la rentrée 2020, de 16 à 18 ans, les jeunes ont l'obligation de se former à un métier. Alors qu'avant, les obligations s'arrêtaient à 16 ans. À partir de 16 ans, tu pouvais faire ce que tu voulais en fait. Et alors, toute cette petite introduction me permet de vous annoncer ce chiffre plutôt inquiétant. 100 000 enfants et jeunes en France n'ont pas accès à l'instruction, c'est-à-dire à l'école. C'est 20 000 personnes de plus que la capacité maximale du Stade de France, pour vous donner une idée. Longtemps, ces enfants n'avaient pas accès à l'école à cause de problèmes au moment de l'inscription, en fait. L'école demandait un document sur lequel figure une adresse, par exemple une facture d'eau, d'électricité, enfin ce genre de choses. Mais les enfants dont on parle ici, ces 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, habitent en général en squat, c'est-à-dire qu'ils vivent de manière illégale dans un endroit qui ne leur appartient pas, ou encore en bidonville.
Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça me rappelle le film Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire, le film se déroule en Inde, et du coup ça raconte l'histoire d'un jeune Indien qui participe à la version indienne de Qui veut gagner des millions, qui gagne, mais qui est accusé de triche. Pourquoi ? Parce qu'il est pauvre. Et justement, on voit dans son enfance qu'il habite dans un bidonville. Alors un bidonville, c'est un lieu dans lequel plein de gens viennent s'installer et fabriquent des petites maisons avec des objets qu'ils récupèrent par-ci par-là, avec des tôles par exemple, des bâches en plastique, des planches de bois, etc. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'eau, pas de chauffage, pas d'électricité, et souvent aussi des vilaines bêtes comme des rats, et vous l'aurez compris, ça ne se passe pas qu'en Inde, les bidonvilles, on peut aussi en trouver par exemple autour de Paris.
En effet, ce sont des conditions de vie vraiment très très dures, donc c'est un peu la double punition pour ces enfants quand ils ne peuvent pas s'inscrire à l'école, en plus de déjà ce qu'ils vivent au quotidien. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre eux se disent que grâce à l'instruction, ils vont pouvoir accéder à un métier et donc à une vie meilleure. Mais là encore, nouveauté en 2020, ce document qui prouve une adresse n'est plus obligatoire. Ce qui devrait permettre à beaucoup d'enfants d'accéder à l'école. Pour le moment, toutes les mairies n'appliquent pas encore ce nouveau règlement, malheureusement. C'est le cas dans une ville au nord de Paris, où la petite Francesca, 5 ans, n'a pas pu s'inscrire à la rentrée. Ses parents sont allés devant le juge. Qui leur a donné raison? Alors Francesca va bientôt pouvoir être comme vous, chers auditeurs, avoir des copains d'école et un professeur. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Richie. C'est un jeune homme de 16 ans qui, lui, n'a pas eu trop de problèmes pour s'inscrire à l'école parce que ses parents ont fait tout ce qu'il faut pour avoir une adresse fixe. Il va vous expliquer. En revanche, Richie, lui, ce qu'il a connu, c'est le racisme à l'école. C'est-à-dire qu'il a subi des insultes et des moqueries à cause de ses origines.
Je m'appelle Richie, j'ai 16 ans et actuellement je suis en première au lycée Élisée Reclus. Je suis tzigane, c'est-à-dire que ma mère est gitane, donc mes ancêtres viennent d'Espagne et ils sont gitans et mon père est manouche et il vient de France, etc. Administrativement, on appelle ces communautés la communauté des gens du voyage. C'est un groupe d'êtres humains, enfin partout dans le monde, qui ont pour la plupart un mode de vie itinérant. On se retrouve tous par des convergences, comme le fait d'avoir une culture commune, un attachement aussi à la famille, etc., au respect, et qui n'ont des difficultés d'accès à l'école pour la plupart. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont issus de ma communauté, qui n'ont pas cette chance, voire ce droit d'accès à l'école. Mes parents ont fait le choix, enfin ils avaient deux choix, le choix de continuer à vivre de manière itinérante, de voyager. Donc dans ce cas-là, j'aurais pas pu accéder à l'école. Alors du coup, mes parents ont fait le deuxième choix qui consiste à se sédentariser pour que moi et mes frères puissions avoir accès à l'école. Se sédentariser, c'est-à-dire rester dans un endroit fixe, ne pas changer de lieu d'habitation de manière perpétuelle. Et du coup, voilà, ils ont fait pour nous ce choix-là. Et donc, moi, j'ai pu accéder à l'école et continuer à y accéder encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai été confronté à d'autres types de problématiques, comme le fait de subir une forme de discrimination à l'école. Et moi, ce que j'ai vécu dès le plus jeune âge dans ma scolarité, c'est beaucoup de préjugés qui m'ont fait mal au cœur, parce que mais ça venait pas de mes amis, enfin des autres jeunes, ça venait surtout de leurs parents qui leur disaient quand je parlais de mes origines, enfin j'en savais pas trop grand-chose quand j'étais petit, mais je disais mais tiens mais moi mes parents sont gitans, etc. Et on me disait ah oui, mais vous, les gitans, vous êtes des voleurs, hein, mais tu sais, il y a mes parents, mes grands-parents qui sont fait voler, à ce qui paraît, c'est des gitans, etc. Et donc, oui, c'est tout un tas de préjugés comme ça, des préjugés qui sont répandus dans la société, ben, que quand on les entend, ça fait mal, parce que on se dit, ben non, les gens qui m'entourent, les gens de ma communauté, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des violents, etc. Et je comprends pas pourquoi on nous colle cette image-là, quoi. Ça m'a déterminé encore plus aujourd'hui à combattre cette haine. Et en fait, je pense que d'ailleurs, ça vient pas tellement des gens, mais ça vient surtout de leur éducation. Parce que moi, je peux pas croire qu'un enfant, il ressent de la haine par lui-même pour aucune raison, quoi. Ça vient de l'éducation qu'on lui a donnée, je pense. La différence, c'est une grande richesse. Et en termes de connaissances, de savoir, de culture, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller discuter avec les autres, discuter avec les gens qui arrivent dans vos établissements scolaires, s'il y a des gens qui, c'est la première fois qu'ils sont scolarisés. Faites en sorte qu'ils puissent réussir, apportez-leur vos connaissances. Et voilà, en soi, ne soyez pas dans le jugement et dans l'insulte, mais au contraire, soyez dans l'envie de découvrir des autres.
Eh bien, je suis impressionnée. J'aurais vraiment aimé m'exprimer aussi clairement à son âge.
N'est-ce pas? Je l'ai d'ailleurs félicité pour son élocution, c'était très agréable de discuter avec lui. D'ailleurs, notre appel a duré beaucoup plus longtemps que ce que vous venez d'entendre, et si vous voulez en savoir plus sur son histoire, la version longue sera en ligne dans les jours à venir. Richie, il a décidé d'agir contre les difficultés d'accès à l'école et contre le racisme. Il s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ont vécu les mêmes choses que lui, quelles que soient leurs origines. Il a donc rejoint le collectif École pour tous. Un collectif, c'est un groupe de personnes qui décident de se mettre ensemble pour lutter pour ou contre les mêmes choses. Et donc le collectif École pour tous se bat pour que tous les enfants puissent avoir accès à l'école. Ce qui est inscrit dans la loi, hein, rappelons-le, mais qui n'est pas toujours respecté en réalité.
Comme beaucoup de choses.
Alors je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de la marraine du collectif afin que vous compreniez un peu mieux quelles sont leurs actions et comment cela fonctionne.
Bonjour, je m'appelle Anina Chouchou, je suis avocate et je suis marraine du collectif École pour tous. Alors le collectif École pour tous, c'est un collectif qui rassemble des jeunes, des enfants et des parents qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, qui sont des enfants du voyage ou ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers. En gros, ce sont des jeunes qui viennent en France sans leur famille, sans parents. En gros, ce sont des réfugiés qui viennent souvent d'Afrique de l'Ouest, de Guinée, du Mali, et qui arrivent ici sans leurs parents. On s'est rassemblés parce qu'on est tous concernés par le fait d'avoir vécu des difficultés pour accéder à l'école, pour y rester ou pour se sentir bien. C'est aussi mon cas. On a vu qu'on avait, même si on vient de parcours très différents, de mondes différents, on avait expérimenté les mêmes problèmes et on a décidé d'agir ensemble pour faire en sorte que nous, mais aussi tous les enfants qui nous ressemblent en France, puissent accéder à l'école, puissent rester à l'école et puissent s'y sentir bien. C'est ça le collectif École pour tous. On est ensemble et on est organisé. On est beaucoup plus fort que quand on est tout seul, dans son coin isolé. Pour pouvoir agir, pour pouvoir faire entendre nos voix, faire connaître nos problèmes, mais aussi surtout faire connaître nos solutions et les faire mettre en œuvre. Il y a 100 000 enfants en France qui n'ont pas votre chance d'aller à l'école. C'est important de ne pas oublier ça et que pour certains enfants de votre classe, par exemple, ça a été un vrai combat pour pouvoir s'inscrire à l'école, pour pouvoir y rester. S'il y a des enfants dans votre classe qui sont exclus, des enfants dont on se moque parce qu'ils n'ont pas forcément les bons habits, parce qu'ils ne parlent pas forcément très bien le français, parce qu'ils viennent d'arriver, on ne sait pas d'où. Toutes ces moqueries, toutes ces injures, c'est très difficile à vivre pour ces enfants-là qui, voilà, déjà ont dû se battre pour pouvoir accéder à l'école. Et ça fait beaucoup de mal. Et ça, parfois, ça crée du décrochage. Le décrochage, c'est-à-dire, ces enfants-là, ils abandonnent L'école, ils abandonnent leurs rêves parce qu'on leur fait sentir que eux, ils ne méritent pas ça, que leur place n'est pas à l'école. Et c'est le cas, par exemple, de Diana, qui est une des membres du collectif École pour tous, qui est une jeune fille d'origine rome roumaine. Diana, il se trouve qu'en plus, elle est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Et à la sortie des cours, elle attendait l'ascenseur pour pouvoir sortir. Et là, c'est un camarade de sa classe qui passe et qui lui dit « Sale gitane, tu ne mérites pas de vivre » et qui la pousse dans l'escalier. Et donc, c'est extrêmement violent. Heureusement, quelqu'un la rattrape. Mais suite à ça, Diana, elle a abandonné l'école. Diana, elle avait un rêve, c'était de devenir traductrice. Parce qu'elle parle plusieurs langues déjà. Avec nous, au collectif, elle a retrouvé ce rêve. Elle veut continuer de se battre pour ce rêve. Donc, de reprendre l'école, ça va être assez difficile. Mais elle a décidé de se battre pour ça. Il y a beaucoup de nos membres qui l'ont vécu, ce racisme. Moi, je l'ai vécu et beaucoup d'autres. Et parce qu'il y a des milliers d'enfants qui le vivent et qui font qu'ils abandonnent l'école, on a décidé d'agir, en fait. Et on a construit des petits ateliers à partir de nos propres histoires, de ce qu'on a vécu, pour faire en sorte, de faire connaître aux élèves dans les classes ce que c'est de vivre ça. Quelles sont les conséquences? Parce que parfois, on ne peut pas avoir conscience qu'une moquerie, une blague qu'on va faire sur quelqu'un peut faire que lui, il abandonne l'école. On ne sait pas comment lui va le ressentir si on ne le vit pas. Donc, c'était pour partager cette expérience-là, mais surtout pour vous montrer qu'en fait, pour montrer aux élèves qu'ils ont la possibilité d'agir contre ça, pour faire en sorte que dans leur classe, ça change, que tout le monde soit bienveillant, que tout le monde s'entende bien dans une classe, pour que ça crée une bonne ambiance pour chacun des élèves.
Cette fois-ci encore, sachez que le témoignage en format long suivra dans quelques jours. Anina Chouchou a pu réaliser son rêve et devenir avocate, mais son parcours n'a pas été simple. Elle est arrivée à 8 ans de Roumanie avec ses parents et ses sœurs. Elle a connu la vie dans un bidonville et les insultes de ses camarades.
C'est un sacré parcours et je pense que beaucoup d'entre nous, on ne s'imagine pas ce qu'elle a pu vivre. Mmh. Et ça montre là encore qu'il faut être tolérant avec ses camarades et avec les autres dans la vie en général. On ne sait pas ce que les gens vivent en dehors du contexte dans lequel vous les connaissez. Vous ne les voyez qu'à l'école et vous ne savez absolument pas quelle est leur vie en dehors.
Tout à fait. Et comme le dit Anina, si un jeune est mis à l'écart, harcelé, ayez le courage d'aller lui parler. Montrez-lui qu'il n'est pas seul, pas rejeté de tous. C'est très dur de se retrouver seul avec une classe entière contre soi. Toi et moi, Marika, on a toutes les deux un peu connu ce problème-là avec le harcèlement scolaire.
Ouais.
Et je crois que le plus dur, c'est ça, en fait. C'est la solitude. Je me souviendrai toujours d'une réflexion d'une de mes camarades avec qui je faisais un atelier cinéma au collège en dehors des cours. Et un jour, en fait, elle m'a dit « Tu sais, Hélène, je t'aime bien, je te trouve sympa, mais faut surtout pas que les autres sachent que je te parle, parce que sinon, je deviendrai comme toi. » Et voilà, cette phrase m'a vraiment beaucoup marquée.
Moi, je crois que mon pire souvenir, c'est quand on a commencé à me jeter de la nourriture à la cantine.
Waouh.
Qu'est-ce que je faisais? Rien, à part que je mangeais et que j'étais nouvelle. Ah oui, ça, c'est sûr, la nouveauté, ça plaît pas. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, si vous avez l'impression d'être victime d'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à en parler à un adulte. Normalement, il y a toujours un adulte autour de vous qui est prêt à vous aider. Et surtout, dites-vous que ça ne dure pas. Vous allez forcément un jour changer d'établissement scolaire, vous allez forcément un jour passer à autre chose. Et vous voyez, Hélène et moi, on a l'air d'aller plutôt bien aujourd'hui. Et du coup, on vous rassure, le harcèlement, c'est pas pour toute la vie et vous pouvez très bien vous porter ensuite.
Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter aussi. On sera ravis de pouvoir vous aider à notre petite échelle. Et donc, dernière info, le collectif a lancé une pétition que vous ou vos parents pouvez signer ou au moins consulter sur le site change.org. Comme d'habitude, toutes les infos seront dans la description. Il y a déjà près de 22 000 personnes qui l'ont déjà signé. Et en gros, c'est pour demander au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'accepter 6 solutions que propose le collectif pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Je trouve que c'est en tout cas toujours instructif à lire.
Eh ben allez, on file le lire.
Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine.
Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et ma question c'est pourquoi les youtubeurs gagnent des millions ?
Alors, tu l'auras compris, Hélène, cette semaine, nous allons parler du monde de YouTube.
Mmh.
Un monde que nos auditeurs, doivent bien connaître. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, YouTube, c'est tout simplement un site qui regroupe de nombreuses vidéos sur des sujets très variés, que ça soit le jeu, le lifestyle, des sketchs. Alors Hélène, est-ce que toi tu as une vidéo YouTube préférée?
Ah ouais, alors sans aucune hésitation, c'est You Forgot Blueberries. Donc en mot à mot, ça veut dire quoi, Marie?
Tu as oublié les myrtilles.
Tout à fait. En fait, ce sont deux jeunes américaines qui font une recette d'un gâteau. La vidéo est pas longue, hein, je vous rassure. Et en fait, la plus jeune, elle arrête pas de répéter à sa sœur You Forgot Blueberries, You Forgot Blueberries. Et elle arrête pas de se tortiller dans tous les sens jusqu'au moment où elle tombe et elle finit la tête dans le saladier de la préparation de gâteau. Et la tête de sa sœur est absolument géniale. Et il faut foncer voir cette vidéo. Voilà.
Alors pour ma part, il n'y a pas de myrtille, c'est une vidéo de l'Eurovision. Alors déjà là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns avec l'Eurovision.
Oui, oui.
Alors l'Eurovision, c'est un concours de chant. Franchement, regardez une fois, ça vaut le détour.
Non, c'est vrai, c'est une expérience.
Ouais, et c'est diffusé tous les ans sur France Télévisions. Et comme son nom l'indique, l'Eurovision, ça rassemble chaque année de nombreux pays européens. Et en 2010, la Moldavie, alors là aussi vous dites quoi? La Moldavie, c'est un pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Donc la Moldavie participe au concours avec le groupe Sunstroke Project, j'ai sorti mon meilleur accent anglais. Et alors que la chanson commence, de nombreux téléspectateurs ont découvert Sergei Stepanov, le saxophoniste du groupe, et son solo de saxophone fait un carton sur internet, je vous passe la musique. Alors résultat, magie d'internet, l'extrait a été repris et des gens se sont amusés à faire des montages où on peut écouter celui qui s'appelle Epic Sax Guy, donc en français c'est le mec au saxo sensationnel, pendant 10
heures. Oh mais
heures.
Quelle horreur!
Alors je recommande pas vraiment, ouais. Ouais voilà, non, pour votre santé mentale je recommande pas du tout. Mais on s'est un petit peu éparpillé du sujet, revenons à la question de la semaine et je laisse l'intervenant se présenter.
Je m'appelle Vincent Manilev, j'ai été journaliste pendant plusieurs années, je me suis spécialisé sur tout ce qui touche à YouTube et aux influenceurs et j'ai notamment publié un livre qui s'appelle YouTube derrière les écrans où j'essaye d'expliquer un petit peu comment fonctionne ce milieu.
Alors Vincent Manilev va expliquer déjà dans un premier temps comment l'argent a fait son arrivée sur YouTube.
Alors c'est intéressant la formulation de la question, je vais reprendre un petit peu d'autres points, je vais remonter un petit peu en arrière et je vais parler de la télévision d'abord parce que c'est important pour bien comprendre comment les youtubeurs gagnent de l'argent. À la télévision, quand des gens, on va dire de mon âge, regardaient beaucoup de dessins animés, les marques pouvaient mettre de la publicité avant et après les dessins animés parce qu'ils savaient que des enfants regardaient et ils pouvaient comme ça mieux cibler le public qui voulait viser. Aujourd'hui, les jeunes, comme cette jeune fille, peuvent et regardent, à mon avis, beaucoup plus de vidéos YouTube sur un iPad, sur l'ordinateur, sur le téléphone, et sont beaucoup moins devant la télé. Et donc, les marques, elles ont dû s'adapter. Elles ont dû aller là où les jeunes sont pour mettre de la publicité pour leurs produits. Et donc, on a commencé à voir sur YouTube des publicités qui apparaissaient avant, pendant et après les vidéos. Ça a permis aux YouTubeurs, au tout début, de commencer à gagner un petit peu d'argent. C'est-à-dire que les marques payaient pour placer des publicités et une partie de l'argent revenait aux YouTubeurs. Donc évidemment, il fallait remplir certains critères qui se sont complexifiés avec les années pour avoir de la publicité, parce que une marque n'a pas envie d'avoir ses pubs devant n'importe quelle vidéo. Mais ensuite, donc ça a un peu commencé comme ça.
Et les propos de Vincent Manilev me font m'interroger d'ailleurs. Chers auditeurs, c'est vrai ça? Est-ce que vous regardez encore la télévision? Un peu? Pas du tout? Alors n'hésitez pas à nous le dire par mail ou sur nos réseaux sociaux. Bref, on poursuit, on en était où, Hélène?
On en était au fait que certains youtubeurs ont vu de la publicité arriver sur leurs vidéos.
Voilà, merci Hélène.
Certains ont commencé à gagner pas mal d'argent, dans le sens où ils faisaient des millions de vues, donc ça veut dire potentiellement des millions de vidéos et de pubs visionnées. Donc ils commençaient à gagner un peu d'argent, c'est les premiers, c'est les Cyprien, les Norman, les Mister V. Sauf ce qui s'est passé, là encore, c'est qu'au final, il y a eu tellement de gens qui ont fait des vidéos, il y a eu une audience qui a tellement grandi sur YouTube que ça a été compliqué un petit peu par la suite de vraiment gagner autant d'argent qu'avant. Donc à ce moment-là, les marques, elles ont fait un peu différemment et les youtubeurs, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle des placements de produits ou des partenariats. C'est-à-dire que là, la publicité s'invite directement dans la vidéo. Un petit peu comme un film avec James Bond où il a une certaine montre d'une certaine marque, où il a sa fameuse voiture, sa Aston Martin, etc. Bah là, c'était pareil. On voyait Norman boire du Fanta, et donc la publicité venait directement dans le contenu.
Mais alors du coup, si par exemple Norman boit du Fanta dans ses vidéos, est-ce que ça veut dire qu'il a été payé pour le faire? Et est-ce que on le sait?
Bah alors justement, c'est la question. Alors je te laisse écouter Vincent Manilev qui va en parler.
Alors évidemment, ces nouvelles publicités, ça pose des questions éthiques, hein. Est-ce que c'est vraiment bien que les pubs aillent autant et s'infiltrent autant dans les contenus des youtubeurs? Mais en tout cas, pour eux, ça leur a permis de gagner de l'argent d'une autre façon et potentiellement plus d'argent. Effectivement, des fois, pour certains partenariats, pour les très 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 gros youtubeurs, ils pouvaient gagner les budgets pour tout financer, hein, les équipes de production, les gens chargés des costumes, etc. Et le youtubeur, ça pouvait dépasser les 100 000 euros pour une vidéo entièrement sponsorisée. Donc là, on est sur des grosses sommes. Donc effectivement, bah, il y a des youtubeurs qui ont commencé à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. En plus, donc avec les pubs qui étaient déjà avant leur vidéo. Et donc ça a continué comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, bah, il y en a certains qui peuvent très bien s'en sortir. Qui deviennent millionnaires parce qu'il y a beaucoup de marques qui s'intéressent à elles, parce que bah, les jeunes regardent ces youtubeurs et donc les marques ont envie de parler à ces jeunes-là et donc passent par les youtubeurs pour leur adresser des messages publicitaires. Donc là encore, il faut être très prudent, il faut avoir le recul sur ces vidéos-là pour pas se faire des fois un peu avoir par les publicités. Mais là encore, ce qui est important, c'est l'idée la plus importante, et c'est là que je vais répondre un peu plus précisément à la question. Les youtubeurs sont en grande majorité des gens qui ne gagnent pas d'argent. Ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui sont millionnaires, ça représente une infime partie des youtubeurs. C'est vraiment, on les compte sur les doigts de 4-5 mains, on va dire. C'est très 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 difficile de vivre de ce milieu-là. On connaît les Norman, les Squeezie, les Cyprien, les Thibaut InShape, les Natou, etc. Eux vivent très bien de leur métier, mais derrière ça, il y a énormément de youtubeurs qui n'y arrivent pas du tout. Parce que, y a tellement tellement de youtubeurs que c'est difficile de se faire une place aujourd'hui, et l'immense majorité en vit pas vraiment. Et en fait, on peut même dire qu'ils perdent de l'argent parce que pour faire des vidéos, il faut avoir un logiciel de montage, il faut avoir une caméra, donc c'est investir. Et c'est très rare de rentrer dans ses frais, comme on dit, de rembourser ce qu'on a investi. Donc je trouve que le point vraiment important là-dessus, c'est de se dire que oui, il y a quelques youtubeurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais derrière, il y en a énormément qui en gagnent très peu, qui arrivent des fois à en vivre. Et encore, c'est compliqué, ça dépend des mois, ça dépend des partenariats. Mais globalement, c'est très 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 compliqué d'en vivre. Et donc, c'est important, si on se lance dans ce genre d'aventure, si on a envie de faire des vidéos sur YouTube, il faut pas le faire pour l'argent. C'est vraiment très important de garder ça en tête. Il faut le faire parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie de partager des choses avec les gens, que ce soit des vidéos Fortnite, des vidéos lifestyle ou des sketchs. Et peut-être qu'un jour ça marchera, peut-être qu'un jour il y aura des gens qui vont vraiment s'abonner en masse et des partenariats qui vont pouvoir se mettre en place. Mais avant tout, si on se lance sur YouTube, et ça j'insiste vraiment là-dessus, il faut le faire d'abord pour plaisir et pas forcément pour en faire métier. Même si je souhaite au maximum de personnes de pouvoir vivre de cette activité-là.
Dis Hélène, tu crois que c'est possible de devenir millionnaire avec un podcast?
Marika, écoute ce qu'a dit Vincent Manilev, il faut faire ça par passion avant tout.
Bon ben, j'aurais essayé.
Si tu as d'autres questions, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et ta question, bien entendu, à mamanjeirateactu@gmail.com. On y répondra avec passion. Alors cette semaine, pas de recommandations culturelles, mais l'annonce d'un grand jeu concours.
Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jeu concours.
Ouais, je pense que ça devrait vous plaire et plaire à vos parents aussi, chers auditeurs. L'idée, en fait, c'est de réaliser votre propre podcast sur un événement important de votre vie ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est l'entreprise Podcast Me qui a eu cette chouette idée. En fait, le principe est simple. Un journaliste discute avec tes parents de toi, de ce que tu aimes, de ta personnalité. Et ensuite, ce même journaliste va t'interviewer par téléphone, c'est-à-dire qu'il te pose tout un tas de questions à partir de ce que tes parents auront dit de toi. Ça peut être, par exemple, raconter ta première journée d'école, ou raconter ton déménagement dans une nouvelle ville, ou encore ta dernière compétition de gymnastique. Voilà, les possibilités sont ouvertes. Ensuite, le journaliste fait le montage sur son ordinateur. C'est-à-dire qu'il met en ordre toutes les réponses et il coupe tous les et toutes les bafouilles. Et en fait, une fois que c'est terminé, tes parents et toi, vous recevez votre podcast prêt à écouter par mail. Il ne vous reste plus qu'à le partager à la famille, aux amis, à l'école, tout ça. Et bien sûr, ça permet de garder un super souvenir que tout le monde sera content de réécouter dans quelques années, notamment à vos 18 ans. En général, c'est quelque chose que les parents aiment bien faire, sortir les vieilles photos, les vieux dossiers.
Et ben là, ça sera les vieux podcasts.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Maman, j'ai raté l'actu s'associe à Podcast Me pour vous faire gagner un enregistrement ainsi que 5 codes promotionnels pour réaliser votre podcast personnel. Et devinez qui réalisera les interviews?
Ah, c'est pas moi.
C'est moi.
C'est pas moi.
Pour plus d'informations et pour participer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Alors, vous likez le post, vous le partagez et rendez-vous ensuite sur le site de podcast.me où vous aurez un petit formulaire à remplir. Lancement du concours mercredi 30 à 18h et tirage au sort le dimanche 11 octobre. Bonne chance à tous, j'ai hâte de vous interviewer.
Ouais, elle interviewe super bien et elle coupe très bien les E parce que je peux vous dire que les E, les bafouilles, les n'importe quoi, on en fait beaucoup.
Alors ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est peut-être toi, mais moi pas.
Oui,
Hein,
voilà,
ouais,
sur moi,
on va dire ça.
oui, voilà, tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Je suis bien d'accord. Hélène, elle fait pas mal de magie dans les podcasts. Et tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode, que ce soit d'harcèlement scolaire, de Myrtille ou de podcast.me, sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question comme la participante de cette semaine, nous y répondrons dans un prochain épisode.
Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain épisode le 14 octobre.
Bye bye.
Bye bye,
bye
salut.
Bye, ciao.